hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Bernard Stiegler. Bernard Stiegler, vous êtes philosophe, vous avez publié de très nombreux livres qui traitent de problèmes philosophiques, certes, mais aussi politiques, scientifiques, mécaniques. Vous êtes un des rares cartographes de notre post-modernité et de ses conséquences, mais vous avez eu plusieurs vies. Comment a commencé l'amour de la philosophie ?
Par accident.
Tardivement ?
Par accident, tardivement, aux alentours de 26 ou 27 ans. Après une arrestation, voilà, et en prison pendant 5 ans.
Mais pourquoi l'arrestation ?
Pour des hold-up.
Des hold-up armés ?
Oui, bien sûr, armés, oui.
Avec des revolvers qui étaient des jouets ou des vrais ?
Non, des vrais, des vrais.
Braquage de banque ?
De banque, oui.
Pourquoi ?
Parce que j'ai besoin d'argent, tout simplement.
Mais il y a d'autres manières d'en obtenir ?
Oui, bien sûr.
Vous qui êtes un grand spécialiste du travail ?
C'était les années 70. C'était les années 70, je ne veux pas raconter tout ça, ça n'a pas grand intérêt.
Ah bah si, parce que c'était... Justement, cette période où la France a échappé à des mouvements d'extrême gauche qui, dans d'autres pays comme l'Italie, se sont militarisés.
Oui.
Et vous faisiez peut-être partie de cette constellation-là ?
Pas exactement. Enfin, moi, j'étais plutôt anti-violence, pour tout dire. C'est paradoxal, évidemment, mais je n'ai jamais voulu revendiquer une quelconque dimension politique à ces gestes, qui étaient des gestes de droit commun. Je les ai revendiqués comme tels. Je n'étais pas du tout d'accord avec les mouvements terroristes ou ce genre de choses, pour dire, mais c'est pas du tout un système de défense, parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas me défendre de quoi que ce soit. Cette affaire a été jugée, et les choses sont du passé pour moi, mais voilà, il s'est trouvé que c'était le début de la rigueur, le plan Barre, etc., que j'étais un artisan. Un artisan, plus exactement, un commerçant.
De quoi ?
J'avais une espèce de bistrot, une boîte de jazz, un piano-bar où je faisais venir des musiciens. Et voilà, et une série de circonstances m'ont conduit, alors que cette affaire marchait très bien d'ailleurs, vraiment, m'ont conduit à me retrouver privé de découvert dans l'impossibilité de payer mes fournisseurs et mon personnel, etc. Et par une banque que je suis donc allé braquer. Et donc voilà, alors après, une fois ayant dit cela, je ne suis pas en train d'essayer de justifier ce geste que je trouve aujourd'hui grotesque. Et puis par ailleurs, j'avais deux enfants à cette époque-là, voilà, je trouve ça pas totalement irresponsable après coup.
Mais vous les avez toujours, vos enfants ?
Bien entendu, ils sont plus beaux que jamais. Mais
vous avez pu continuer à avoir une relation avec eux au cours de ces années de prison ?
Ah oui, bien sûr, par courrier surtout, on se voyait un petit peu, mais j'aimais pas du tout les parloirs. Mais on s'est vu quelques fois au parloir, mais c'est abominable un parloir.
Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait plusieurs braquages.
Oui. Ces situations-là, ce sont des spirales infernales quand on commence à rentrer là-dedans. D'abord... Il n'y a pas tant d'argent que ça quand on braque une banque, parce qu'il y a des systèmes qui font qu'une partie de la caisse est avalée par un automate. Donc on repart finalement avec, à l'époque, je ne sais plus, je suis perdu entre les francs et les euros, mais enfin c'était quelque chose de genre 5000 euros. Ça ne résolvait pas mes problèmes de découvert.
Voilà. Mais c'est beaucoup, hein ?
Ouais, mais... Enfin bon, je n'ai pas envie de parler de ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Oui, mais ça a quand même été très important, puisque non, ça a été le début du goût et de la méditation que vous a offert le champ philosophique.
Oui, bon, là, ça a été une expérience très, très intéressante de faire de la philosophie pratique. Quand je dis pratique, je viens dans une situation objective et matérielle et sans échappatoire possible, que j'ai appelé, moi, de la phénoménologie expérimentale. C'est-à-dire que si on considère que la phénoménologie est bien représentée par Husserl, et si on considère que Husserl définit la phénoménologie comme d'abord comme ce qu'il appelle la suspension de la thèse du monde, c'est-à-dire l'interruption de la croyance dans le monde et de l'implication dans ce qu'il appelle l'attitude naturelle, c'est-à-dire ce qui nous gouverne lorsque nous sommes dans le monde, alors l'emprisonnement est une espèce de situation phénoménologique de fait, quoi, dont j'ai essayé de faire une situation de droit, si je puis dire, non pas au sens juridique, mais au sens philosophique. C'est-à-dire que j'ai essayé d'en tirer le maximum. Et de ce point de vue-là, ces 5 années de prison n'ont pas été des temps perdus. Bon, ça n'a été possible que parce que, avant d'être incarcéré, je pratiquais un peu la lecture, non pas la philosophie, mais la lecture.
Vous n'étiez pas un autodidacte.
Si, si, j'étais un autodidacte. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimais lire et j'avais, avant d'aller en prison, quelques atouts avec moi. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des détenus. Je dis cela pour bien insister sur le fait que, en règle générale, la prison n'est pas une bonne chose pour les gens. Voilà.
Dans un de vos livres, intitulé « Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue » et sous-titré « De la pharmacologie », vous citez Husserl. Vous citez Husserl et qui décrit la crise de la science et qui, je cite Husserl, hein, que vous citez vous-même dans ce texte, « La façon exclusive dont la vision globale du monde, qui est celle de l'homme moderne, s'est laissée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, déterminée et aveuglée par les sciences positives et par la « prosperity » entre guillemets, qu'on leur devait, signifier que l'on se détournait avec indifférence des questions qui, pour une humanité authentique, sont les questions décisives. De simples sciences de fait forment une simple humanité de fait. » Fin de citation de Husserl. Et vous reprenez, vous, en écrivant, « Lorsque Husserl écrit ces lignes, il y a 2 ans que Hitler est devenu chancelier et 1 an qu'il a été plébiscité comme Führer par 92% des électeurs allemands. » Et c'est ça qu'on peut constater dans votre itinéraire, Bernard Stiegler, c'est que quand vous faites de la philosophie, vous la situez toujours historiquement, scientifiquement, politiquement. Et on a l'impression, à lire vos nombreux ouvrages, qu'il y a une sorte à la fois de pressentiment des philosophes de l'avenir du monde et en même temps une espèce de disjonction par rapport au réel qui les environne.
Oui, oui, absolument. Bon, comme on sait, Hegel disait « la philosophie vient toujours trop tard ». Pour moi, la question, c'est comment on fait de ce trop tard une avance. Je pense que c'est toujours ça, la question philosophique. Cette intempestivité, comme disait Nietzsche, qui constitue la philosophie, c'est la question du temps, à proprement parler. Il y a un temps philosophique. Alors, ce que j'essaye de... Un temps philosophique, je veux dire, par rapport à un temps de... Par exemple, de ce que j'appelais tout à l'heure en me référant au sort le monde ou l'attitude naturelle, par rapport à quoi le philosophe est en responsabilité, si je puis dire, d'une certaine exigence quant à la temporalité. Dans cet ouvrage que vous venez de citer, je me réfère à ce texte de Husserl que je mets en relation à un texte de Freud, « Le malaise dans la culture ou dans la civilisation », ainsi qu'à deux textes d'ailleurs de Paul Valéry, « La crise de l'esprit » paru en 1919, et un autre texte paru en 1939 où Paul Valéry parle de ce qu'il appelle la baisse de la valeur esprit. Évidemment, si tous ces textes sont convoqués dans ce livre-ci, où je parle de pharmacologie, donc, c'est parce que je crois que à partir de 1919, pour la première fois dans l'histoire de la pensée occidentale et en particulier de la philosophie, même si Paul Valéry n'est pas exactement un philosophe d'ailleurs, des hommes, des penseurs, prennent conscience d'une situation que donc j'appelle, après Jacques Derrida, et après Platon, pharmacologique. Voilà. Ni Derrida ni Platon n'ont parlé de situation pharmacologique, mais ils ont soulevé la question du pharmacon, c'est-à-dire du remède qui devient poison et réciproquement. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à la découverte massive, planétaire, par des milliards de gens. Non pas par quelques dizaines d'intellectuels et d'artistes, parce qu'il y avait aussi les dadaïstes et un certain nombre de personnes qui appartiennent à cette époque qui va conduire à ce qu'on appelle les sinistres années 30, qui étaient sensibles. Il y avait quelques dizaines de personnes qui étaient sensibles à ce changement dans la culture et dans la vie de l'esprit qui faisait que tout à coup, Paul Valéry pouvait dire en 1919 tant d'horreurs, c'est-à-dire tant de dizaines de millions de morts, de centaines de villes anéanties, rasées, de champs inexploitables, de familles ruinées, de pays exsangues, n'aurait pas été possible sans tant de vertus, c'est-à-dire les progrès des mathématiques, de la chimie, de vertu morale aussi, le courage mis au service de l'anéantissement, etc., etc. Et donc tout à coup, Paul Valéry pose le problème de ce qui nous avait toujours paru constituer la valeur par excellence, ce que Kant rapportait au suprasensible, comme étant mis au service de la destruction.
Et encore, il ne savait pas ce qui nous attendait.
Et il ne savait pas, et c'est ça le sujet de mon livre. Freud, plus tard, va parler, lui aussi en se référant à la guerre d'ailleurs, mais à travers les névrosés, enfin les soldats qui sont revenus du front, de la pulsion de destruction, et en 1929, il va interroger le destin de la civilisation, en particulier de la civilisation occidentale, dans un contexte où un profond malaise, dit-il, s'installe dans la civilisation. Ce malaise est lié à l'ambivalence radicale de ce que jusqu'alors on appelait le progrès, qui semblait quelque chose de linéairement évident. Husserl, lui, en fait le cœur de la question de la phénoménologie dans la crise des sciences européennes. Et ce qui m'importe évidemment ici, et ça me rapproche évidemment, ça me fait passer par Jacques Derrida, et c'est à Jacques Derrida que je dois tout cela. Jacques Derrida, dont je dois dire d'ailleurs que c'est lui qui m'a accueilli quand je suis sorti de prison, qu'il m'a écrit en prison et qu'il m'a aidé, puisqu'il a y compris fait une lettre pour garantir ma liberté conditionnelle. Je ferme cette parenthèse, et je tiens à le dire quand même. Jacques Derrida a commenté un texte qui s'appelle L'origine de la géométrie, d'un texte de Husserl, qu'il a traduit en français et dont il a fait une introduction célébrissime, publiée en 1961, où Husserl, qui est en tant que phénoménologue transcendantaliste, et qui était un transcendantaliste, on pourrait dire extrémiste presque, c'était un transcendantalisme absolument radical, la démarche phénoménologique, qui refusait radicalement de prendre en compte quoi que ce soit de l'expérience, pour fonder une philosophie intégralement constituée par ce qu'il appelait le sujet transcendantal a priori, pour reprendre un terme de Kant. Eh bien, Husserl, en 1936, ses contemporains du texte que vous avez cité, donne une conférence sur l'origine de la géométrie, dans laquelle il dit, c'est un coup de théâtre inouï dans l'histoire de la phénoménologie et même de la philosophie, en fin de compte, la géométrie n'est pas possible sans l'écriture, et non seulement sans l'écriture, mais sans le lissage des surfaces, sans l'arpentage, c'est-à-dire sans toutes les techniques qui ont été mises en œuvre par les géomètres grecs et qui sont constitutives de la civilisation occidentale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout à coup, l'écriture qui est une technique, finalement devient une condition de possibilité de la constitution du transcendantal. Et ça, c'est un changement radical de point de vue qui n'aura pas de suite chez Husserl, parce qu'en fait il meurt juste après, mais qui va être la base du raisonnement de Derrida. Derrida, tout à coup, posant que le pharmacon, ce que Platon, dans le dialogue Phèdre, appelle le pharmacon, à savoir l'écriture, est la condition de possibilité du savoir même. Et Derrida dira, du coup, la condition d'impossibilité du savoir même. Parce que si c'est un pharmacon, c'est ambigu. Et si c'est ambigu, ça a pour conséquence, parce que dit Paul Valéry, c'est-à-dire que ce qui est de l'ordre de la puissance et de l'intégrité, si je puis dire, du savoir, de sa pureté, on pourrait presque dire, eh bien, peut se renverser en une impureté absolue, en une désintégration que Valéry voit à la fin de la Première Guerre mondiale, que Husserl voit un an après le plébiscite par Hitler, par d'ailleurs 89% et non pas 92% comme je l'ai dit dans ce livre, parce que depuis, j'ai corrigé, j'ai trouvé d'autres données, donc... il n'y avait que 89%, mais c'est énorme. Et évidemment, si j'écris ce livre moi-même en 2010, c'est d'ailleurs juste avant Fukushima, mais c'est dans un contexte de situation pharmacologique qui aujourd'hui est ressenti par tout le monde, par tous les gens de la rue. Ce que j'appelle les gens de la rue, c'est aussi moi, bien entendu. Hein, c'est les gens, le monde ordinaire. Il n'y a pas besoin de faire de la philosophie aujourd'hui pour se poser ce type de questions. Et c'est extrêmement dangereux. Ça signifie aussi que, en ce moment, nous sommes en train d'entrer dans une crise économique absolument colossale, où l'Europe est fondamentalement menacée, peut-être de disparaître véritablement. Ce n'est pas du tout absurde de dire cela aujourd'hui. Quand je dis de disparaître, ça ne veut pas dire forcément qu'elle serait anéantie par une troisième guerre mondiale. Mais d'abord, elle est déjà anéantie par une guerre économique mondiale. Ça, c'est tout à fait évident. J'ai d'ailleurs proposé dans Philosophie Magazine que les candidats à la présidence de la République se prononcent sur un traité de paix mondiale, de paix économique, parce que je pense qu'aujourd'hui, si nous ne négocions pas une paix économique, il n'y a pas d'issue, je ne parle pas simplement pour l'Europe, mais pour la planète entière, il n'y a pas d'issue à cette situation catastrophique qui a été provoquée par une guerre déclenchée par Ronald Reagan et Margaret Thatcher, c'est quelque chose de très précis, et dont je pense que les pouvoirs politiques et intellectuels n'ont pas du tout tiré encore aujourd'hui les conséquences. Ça m'amène à vous parler d'un livre que je vais sortir très bientôt, qui s'appelle « Bêtises et savoirs au XXIe siècle », où je parle...
Vaste programme.
Vaste programme, comme aurait dit De Gaulle à Malraux, où je parle d'un film qui a été un grand succès, qui s'appelle « Inside Job ». Je commence par citer ce film, qui est un documentaire consacré à la finance, à la technologie financière, on pourrait dire.
Qui est sorti il y a deux ans, effectivement. Et auréolé de plein de récompenses.
Qui a été primé à Cannes, notamment, et qui a été un énorme succès. Et ça, c'est assez extraordinaire en soi, déjà, de voir qu'un documentaire consacré à la finance est un énorme succès.
Il faut dire que le montage était absolument incroyable.
Incroyable.
C'est un véritable polar, hélas, de notre réel.
Tout à fait. C'est un polar. D'ailleurs, c'est un casse mondial fait par la finance internationale sur l'économie mondiale. Et ce que met en évidence notamment ce film, en s'appuyant d'ailleurs sur un propos de George Soros, c'est que les universités américaines, et en particulier les économistes des grandes universités américaines, comme Columbia, Harvard, Berkeley, etc., de très nombreuses universités, ont été très profondément impliquées dans cette évolution de l'économie. Et Soros dit, si les universitaires n'avaient pas accrédité, ça n'aurait pas pu se faire. Alors, ça m'amène à interroger le rôle de l'université aujourd'hui, des universitaires, et non pas de mettre en accusation les économistes, parce que ça ne suffit pas. Je pense que depuis 40 ans, une situation s'est installée, vous parliez d'ailleurs de postmodernité tout à l'heure, qui a consisté à dire, finalement, on ne peut rien faire. Et là-dessus, mes amis, et moi-même d'ailleurs d'une certaine manière, nous avons pris une position qui passe par la postmodernité, la déconstruction, ce qu'on appelle plus globalement le post-structuralisme, y compris par exemple la critique de l'État par Michel Foucault, etc., qui a consisté à dire, finalement, toutes ces vieilles lunes modernes qui consistaient à affirmer la souveraineté de l'État, la possibilité de cultiver une autonomie du sujet, et toutes ces choses-là, ça ne tient plus debout. Il faut le déconstruire après l'explosion de la métaphysique. Après Heidegger, après Nietzsche, après Freud, etc., tout ça doit être mis à bas. Et quand je dis cela, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de mettre en accusation les penseurs qui ont engagé tout cela, enchaînant d'ailleurs sur d'autres penseurs avant eux, comme Roland Barthes, comme Jacques Lacan, comme tous ces gens-là, qui avaient mis en question une figure traditionnelle du sujet moderne. Je ne les mets pas en accusation, parce que je continue à revendiquer cela. Mais je pense que ce travail s'est trouvé à un moment donné, en quelque sorte, s'est arrêté au milieu du guet, et a laissé aujourd'hui, par exemple, les dizaines ou les centaines de milliers de jeunes gens qui sont à Wall Street, à Francfort, etc., qui sont dans les mouvements de de rejet de ce qui est en train de se passer, démuni et désarmé politiquement, conceptuellement. Et je pense que dans cette situation, l'université a une responsabilité historique. Quand je dis une responsabilité, je ne dis pas une culpabilité. Il ne s'agit pas de juger ce qui s'est passé dans les 40 dernières années pour mettre à l'index je ne sais quelle personnalité. Il s'agit de dire voilà ce dont nous avons hérité et voilà maintenant les responsabilités qui nous incombent par rapport à cet héritage. D'abord, il s'agit de... Aujourd'hui, moi, je parle d'une déconstruction de la déconstruction. Parce que la déconstruction est devenue une espèce de construction. Je voyage pas mal maintenant. Il m'arrive souvent d'aller dans des universités aux États-Unis ou ailleurs où je trouve une espèce de ronron déconstructionniste qui finalement ne déconstruit plus rien du tout, qui rabâche une attitude et qui est devenue une espèce de construction historique. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je trouve la même chose chez ce que j'appelle parfois les jeunes deleuziens qui sont dans une espèce de répétition, d'une pensée qui se désincarne de plus en plus, une pensée qui, elle, est née dans un contexte historique bien spécifique, alors que depuis, beaucoup de choses se sont passées et que finalement, ces choses qui se sont passées, eh bien, il ne suffit plus de rabâcher le Derrida, Foucault, pour les appréhender. Il faut penser à nouveau frais. Non pas du tout en se débarrassant ou en oubliant Foucault, comme le proposait Maudrillard, bien au contraire, mais en réarmant la pensée. Et par rapport à cela, ce que je crois, c'est qu'il est très important aujourd'hui d'affirmer le projet de ce que j'appelle une pharmacologie positive.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que lorsque Derrida, qui est mon principal inspirateur dans toutes ces affaires, pas du tout le seul, loin de là, mais au départ, c'est lui qui m'a mis sur la piste de toutes ces questions. Lorsque Derrida a écrit ce texte fondamental qui s'appelle « La pharmacie de Platon », où il a mis en évidence que ce que Platon soulevait contre la sophistique, à savoir que la pratique de l'écriture par les sophistes était quelque chose qui détruisait ce qu'il appelait lui l'anamnésie, c'est-à-dire la connaissance vraie, c'est-à-dire l'accès à l'aletheia, à la vérité. Parce que les sophistes, en manipulant l'écriture, en utilisant l'écriture, faisaient une confusion entre ce que lui appelle l'anamnésis et l'hypomnésis, l'hypomnésis voulant dire la remémoration mécanique, y compris en tant que technologiquement ou techniquement, elle peut être mise en œuvre par exemple par la mnémotechnique de l'écriture. Lorsque Platon dit cela et qu'il accuse en disant cela les sophistes de donner le sentiment aux Athéniens, aux jeunes Athéniens qui viennent suivre leurs conférences, qu'ils pensent alors que au contraire ils ne font que rabâcher quelque chose qui est dit par les sophistes, donc justement ils ne pensent pas, et donc c'est très dangereux, puisque au moment même où ils ne pensent pas, on leur fait croire qu'ils pensent. Et ça s'appelle la bêtise. C'est ça la bêtise. Parce que M. Homais, la bêtise de M. Homais, c'est cela. Hein. C'est le caractère sentencieux de celui qui croit qu'il dit quelque chose alors qu'il ne fait que rabâcher un sottisier. Eh bien, Derrida a objecté à Platon que, en fait, et ça passe évidemment par l'interprétation qu'il avait donnée de l'origine de la géométrie de Husserl, précisément, celle dont je parlais tout à l'heure, qu'en fait, l'hypomnésis est la condition de l'anamnésis. Donc on ne peut pas opposer hypomnésis et anamnésis. Et donc Derrida a montré, et à mon avis cette démonstration est sans retour, c'est-à-dire qu'elle est définitive, il a montré qu'il faut du pharmacone et de la négativité technique, si je puis dire, de ce que lui appelle le supplément, pour que quelque chose comme une anamnésie soit possible. Il a objecté cela à Platon pour donc venir contrarier l'espèce d'opposition que Platon fait entre d'un côté la sophistique et l'hypomnésis et de l'autre côté la philosophie et l'anamnésis. Mais ce qu'il n'a pas fait à mon point de vue, en tout cas, je n'ai pas absolument tout lu de Derrida, mais enfin j'ai lu quand même presque tout, à ma connaissance, il n'a jamais soutenu quelque chose comme la possibilité d'une pharmacologie positive. Or, moi, je crois que le temps est venu de faire une pharmacologie positive. Il a parlé d'une grammatologie positive, d'ailleurs, mais pas d'une pharmacologie positive. Qu'est-ce que j'appelle une pharmacologie positive ? Eh bien, c'est quelque chose qui consiste à faire une critique de la situation pharmacologique, c'est ce que j'appelle une pharmacologie générale, ça, pour permettre à la société de mettre en place ce que j'appelle les thérapeutiques. Non pas pour que la philosophie prescrive des thérapeutiques, je pense que les philosophes ne doivent jamais prescrire de thérapeutiques. Ça, c'est par exemple ce que Platon veut faire à Syracuse, C'est ce que, dans certaines circonstances, Heidegger a été tenté de faire aussi, je crois, et je pense que c'est extrêmement dangereux. Je pense que les philosophes, ce sont des puissances critiques, hypercritiques, déconstructionnistes, appelez ça comme vous voulez, qui doivent jamais elles-mêmes proposer de la positivité. C'est la société, plus précisément, c'est la politeia. C'est-à-dire c'est la communauté citoyenne qui doit s'emparer de cela. Mais par contre, les philosophes doivent apporter à la politeia la capacité à se ressaisir positivement de sa situation pharmacologique. Aujourd'hui, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, si nous voulons parler très, très concrètement de la situation contemporaine, qu'est-ce que nous vivons ? Nous vivons une généralisation d'une technologie industrielle qui s'applique absolument à toutes les dimensions de la vie humaine, les relations sociales, les relations familiales, les relations intimes, les relations politiques, les relations économiques, les relations de savoir. Tout cela est aujourd'hui pénétré par les technologies numériques, etc. Le vivant est aujourd'hui intégralement soumis à la technologie. Les biotechnologies, c'est une soumission du vivant à des processus que j'appelle de grammatisation, reprenant d'ailleurs des problématiques de Derrida. Mais aussi la mécanique quantique, par exemple. Aujourd'hui, les nanotechnologies consistent à discrétiser au niveau quantique l'activité atomique et à rendre possible des productions de matériaux qui n'existaient pas jusqu'à maintenant, des formes de matière totalement inexistantes dans la nature, etc. etc. Tout cela se déploie d'une manière totalement sauvage, pilotée aujourd'hui par le marketing stratégique et la finance internationale, exclusivement dans des buts spéculatifs, c'est-à-dire en ruinant le monde humain. Mais je pense que cela peut se renverser, et doit se renverser. Je ne crois pas du tout, et je pense que c'était le point de vue de Derrida, qu'une sortie de la situation pharmacologique soit possible. Je pense que ce que Derrida appelait le supplément, et qui va du silex taillé jusqu'aux prothèses les plus ultramodernes, si je puis dire, d'aujourd'hui, ce qu'il appelait ainsi, et qui constitue la condition technique de l'être humain, est quelque chose dont il est impossible de sortir. En revanche, aujourd'hui, il est possible et indispensable de rebâtir un projet économique et politique à partir des questions de cette pharmacologie, telle que Derrida a commencé à l'instruire.
Ben, nous allons écouter Derrida, peut-être, non ? Puisque vous avez finalement été formé par Derrida. Et comme vous êtes un homme fidèle, Bernard Stiegler, vous lui avez consacré un DVD. Nous allons écouter un extrait de ce DVD, La voix de Jacques Derrida, où il va expliquer la différence entre l'image et le livre. C'était en 2007.
Il est évident qu'aujourd'hui, le champ politique est largement déterminé, bien au-delà des lieux habituels de délibération et de décision politique. C'est-à-dire le Parlement, le gouvernement, etc., largement marqué et souvent décisivement déterminé par ce qui se passe sur les chaînes de radio et de télévision. Donc le fait d'avoir accès à cette archive, de pouvoir analyser son contenu, les modalités de sélection, d'interprétation, de manipulation, qui ont présidé à leur production et leur circulation, tout cela est un droit du citoyen. Ce qu'il y a de redoutable avec ces machines-là, c'est que, à force d'accumuler le pouvoir de répétition, parce qu'une fois qu'on a enregistré, on peut répéter ça un nombre incalculable de fois, la reproductibilité technique, comme on dit, cette extraordinaire extension de la reproductibilité technique sert à mimer le flux vivant, l'irréversibilité, la spontanéité, ce qui emporte la singularité dans le mouvement de l'existence irréversible. On a l'impression, en effet, quand on regarde la télévision, que ça se passe une seule fois, que ça ne reviendra pas, que c'est du vivant, du direct, du temps réel, alors que ça s'est produit par les machines à répétition les plus puissantes, les plus sophistiquées. C'est ce trait apparemment contradictoire qui éloigne ces machines-là, je ne sais pas quel nom générique leur donner, du livre, par exemple. où là, on a affaire en effet à une certaine itérabilité, reproductibilité, mais qui se donne comme tel en quelque sorte, hein, qui vous dit d'avance, tu peux retourner à la première page, ou tu dois le faire, tu dois relire, ça ne passe pas comme ça. Là, en effet, nous avons deux expériences très, très, très éloignées, sinon hétérogènes, de la répétition.
Nous venons d'entendre la voix de Jacques Derrida, c'était en 2007, dans un DVD que vous lui avez consacré. Le DVD était filmé par Dick Kirby avec une musique de Ryoshi Sakamoto. C'est vous qui posiez les questions dans cette collection Blackout Collection qu'on peut se procurer en DVD et qui est intitulée « Et si quelqu'un changeait, non pas ce que vous pensez de tout, mais tout de votre façon de penser ?» Point d'interrogation. Et je pense que effectivement, Bernard Stiegler, vous êtes dans le sillage de Derrida et qui avait déjà planté les banderilles de notre contemporanéité et de cet accaparement par ce monde virtuel et pourtant ô combien réel de ceux qui forgent notre destin sans nous demander notre avis. Et ce n'est pas pour rien que vous êtes justement aussi un des penseurs du virtuel. Et ce qui est en train de se passer, on nous parle de bulles financières, on nous parle des marchés, on nous parle du CAC 40, on nous parle d'une crise économique mondiale. Mais en même temps, nous, en tant qu'individus, gens ordinaires, pour reprendre votre propre expression que vous avez utilisée tout à l'heure, nous sommes passifs. Alors que peut apporter la philosophie? Est-ce qu'elle peut apporter... Vous disiez vous-même que les philosophes doivent jamais agir sur le réel parce que ça aboutit à des impasses, voire à des tragédies. Alors que peut-on faire et est-ce que la pensée peut quand même agir?
Bien sûr que la pensée peut agir. Non seulement elle peut, mais elle ne peut que cela. Sinon, elle ne pense pas. Une pensée qui n'agit pas ne pense pas.
Ouais, mais elle ne peut pas agir sur ceux qui décident pour nous.
Mais elle agit dans l'après-coup, de toute façon. Donc elle n'agit pas forcément, enfin si je puis dire, celui qui pense n'est pas forcément celui qui agit, mais si ce qu'il pense n'agit pas, ça n'est pas une pensée. Une pensée se concrétise toujours. Dans le langage de Gilbert Simonon, qui est un autre maître pour moi aujourd'hui, ça produit ce qu'il appelle la transindividuation, l'individuation collective et la transindividuation. Alors, ce que je partage fondamentalement avec Jacques Derrida, la publication est de 2007, mais l'enregistrement est de 1993. C'est une conversation que nous avons eue, qui est à l'origine du livre que nous avons publié ensemble, qui s'appelle « Échographie de la télévision ». Ce que je partage fondamentalement, ce que je dois à Jacques Derrida, c'est cette conviction qui est que le pharmacon est vraiment un pharmacon, c'est-à-dire que tout aussi empoisonnant qu'il puisse être, il est aussi est la seule voie de la remédiation. Comme Frank Capra disait par exemple, le cinéma est une maladie, mais la seule façon de se soigner du cinéma, c'est de faire du cinéma. Par rapport à la question extrêmement actuelle que vous avez soulevée à l'instant, et qui concerne ce que j'appelle notre prolétarisation. Prolétarisation voulant dire chez moi, non pas simplement la paupérisation c'est évidemment un effet, de la prolétarisation, mais la prolétarisation, ça n'est pas la paupérisation. La prolétarisation, c'est la perte de savoir induite par le développement de ce que Derrida appelait le supplément, et de ce que Marx appelle la machine-outil, tout comme d'ailleurs Adam Smith le décrit sur la division industrielle du travail, ou ce que Platon appelle l'écriture du pharmacon, qui fait que, quand je confie ma mémoire à l'écriture, dit Platon, ça peut atrophier l'activité de ma mémoire. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs rapports possibles à l'écriture, mais nous savons très bien que l'extériorisation du savoir, par exemple dans les machines, prive les ouvriers de leur propre savoir. Et j'ai beaucoup souligné, j'en parle d'ailleurs dans ce bouquin, de la pharmacologie, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Je parle d'Alan Greenspan, qui a été privé du savoir du fonctionnement économique par les systèmes automatisés de trading, et qui en a fait son système de défense devant la Chambre des représentants lorsqu'il a été interrogé en 2008 après l'effondrement de Lehman Brothers. Ce que je veux dire en disant cela, c'est que ce que Marx et Engels en 1848 annonçaient, à savoir qu'ils disaient que toutes les couches de la population seront prolétarisées. Toutes. Ça veut dire que, y compris la grande bourgeoisie le sera. Ça signifiait que l'extériorisation du savoir dans les machines conduirait à une perte de savoir, à une prolétarisation généralisée. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et il y a là-dedans, dans cette situation, des gens qui exploitent évidemment les processus de prolétarisation. C'est ce que décrira Marx dans un autre texte qui est les fondements de la critique de l'économie politique en 1858. Il montrera que le capital est ce qui tire parti de cette perte de savoir pour canaliser et capter la plus-value engendrée par l'automatisation. Aujourd'hui, les traders utilisent tout cela, notre perte de savoir, pour produire une hyper-spéculativité qui est devenue ultra-destructrice. Ce que je soutiens, moi, je crois que c'est très fidèle au point de vue qu'avait Derrida, c'est que si le pharmacon est un pharmacon, alors cette situation peut être renversée. C'est-à-dire que ce qui constitue de la prolétarisation peut aussi être mis au service de processus de déprolétarisation. Et là, je dois souligner évidemment que j'ai créé une association avec des amis philosophes, Marc Crépon, Catherine Perret, Georges Collins, et avec mon épouse, Caroline Stigler, qui s'appelle Ars Industrialis, dans laquelle nous soutenons qu'aujourd'hui, la vraie question politique et économique contemporaine, c'est de déclencher un processus de déprolétarisation qui s'empare des technologies en question pour en faire véritablement des processus de remédiation, par exemple, économique. Pour préciser, voilà, ça par un exemple, c'est un exemple que nous donnons toujours pour commencer. Aujourd'hui, il y a une économie industrielle et technologique qui se déploie depuis déjà maintenant presque 30 ans, qui a été d'abord complètement marginale, mais qui est aujourd'hui majoritaire dans le champ de l'informatique, qui est l'économie de ce qu'on appelle le logiciel libre, qui repose sur une suppression de la propriété industrielle, un partage des savoirs par tous ceux qui sont dans les communautés de logiciels libres, en utilisant les réseaux numériques, et des modèles économiques qui sont tout à fait différent des modèles qui ont régné au 19e et au 20e siècle.
Donc notre antipoison, c'est Internet.
Notre antipoison, je dirais, c'est ce que j'appelle, dans un terme que j'ai forgé à partir de mon commentaire de Husserl, la rétention tertiaire, dont Internet est un cas. La rétention tertiaire, c'est la mnémotechnique. Et la rétention tertiaire industrielle étant aujourd'hui essentiellement, effectivement, le numérique, mais ça ne se réduit pas à cela. Notre situation pharmacologique tient au fait que les rétentions tertiaires industrielles se multiplient. Elles sont présentes dans notre vie en permanence, que ce soit sur nos smartphones, dans notre rapport à notre ordinateur. Toutes nos relations sont surdéterminées par ces processus aujourd'hui. Mais ces processus qui nous surdéterminent sont aujourd'hui prolétarisants parce que tout simplement, nous n'en avons pas de point de vue politique, nous n'avons pas de point de vue philosophique dessus, nous avons renoncé à la critique de l'économie politique faite à partir de cette situation. Et là, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure à propos du post-structuralisme. Je pense que si nous voulons étudier ces questions très sérieusement, nous devons absolument lire Foucault, Deleuze, Derrida, Guattari, toutes sortes d'autres, Lyotard, qui ont investigué ces questions. Mais nous devons les lire en prenant conscience du fait que c'est ce mouvement qu'on appelle post-structuraliste qui a dominé, qui domine toujours d'ailleurs aujourd'hui dans le monde anglo-saxon et en Asie également. Hein. Aujourd'hui, en Chine et au Japon, c'est ça qui domine comme pensée, toujours. Eh bien, ce mouvement post-structuraliste, pour des raisons que j'essaye de décortiquer de manière très détaillée dans ce bouquin dont je parlais tout à l'heure, « Bêtises et savoirs au XXIe siècle », ce mouvement post-structuraliste a laissé tomber et la question de la prolétarisation, et la question freudienne de la différence entre pulsion et désir. Je veux dire par là que la prolétarisation, qui est un concept donc qui vient de Marx, est passée à la trappe à un moment donné de la réflexion, lorsque finalement le marxisme s'est effondré.
Est-ce que vous pensez que la prolétarisation est à l'origine de l'existence et de la vivacité du Front National aujourd'hui, parce que vous avez publié un livre qui s'intitule « Aimer, s'aimer, nous aimer ». En exergue, vous avez écrit ce texte qui est absolument incroyable. « Je dédie cette conférence aux électeurs du Front National dont je me sens proche. Je me sens proche d'eux parce que ce sont des gens qui souffrent et qui me font souffrir. Ils me font souffrir parce que dans la proximité même de leur souffrance, je les sens infiniment éloignés de moi et je me sens infiniment loin d'eux. J'ai le sentiment que cet éloignement est notre commune perte. Cet éloignement est paradoxalement le point de fuite de notre souffrance commune, soulignée commune, et en cela notre proximité. Ce qui nous est commun est ainsi le sentiment d'une séparation absolue, mais il ne s'agit pas seulement dans notre souffrance commune, de la souffrance de ce qui nous sépare. Si je me sens proche des gens qui souffrent alors même qu'ils me font souffrir, si je souffre avec eux, je ne souffre pas ainsi seulement du fait qu'ils me font souffrir. Je souffre aussi avec eux de ce qui les fait souffrir. Et ça, je pense que ça résume bien votre itinéraire philosophique et votre point de vue sur le monde aujourd'hui. Quid de cette souffrance commune ? Quid de cette possibilité d'arrêter justement cette prolétarisation généralisée et comment faire en sorte que les extrémismes puissent dégringoler?
Ce texte a presque 10 ans, je l'ai écrit après d'une
part... Vous avez 2 minutes 30 pour répondre.
Après d'une part le deuxième tour des élections présidentielles où Lionel Jospin était dépassé par Jean-Marie Le Pen, et d'autre part l'assassinat par Richard Durne du conseil municipal de la ville de Nanterre au pistolet mitrailleur. C'était il y a 9 ans, je crois, maintenant.
Oui, mais ça n'a pas perdu.
Ça n'a malheureusement pas perdu, au contraire.
De son incandescence, hélas.
Et rien ne s'est détendu, au contraire. Alors, ce que je crois, pour répondre à votre question, qui est la question qui m'intéresse, moi, la philosophie, ça ne m'intéresse que dans une perspective politique. Je pense qu'aujourd'hui, puisque vous me demandiez que faire, comment faire, que dire, il est absolument fondamental d'abandonner le discours de la résistance. Il faut résister à la mise en... Il faut
et de
inventer.
L'indignation.
Et de l'indignation. Il faut inventer, il faut proposer, il faut se battre, il faut penser, il faut construire.
Du positif.
Il faut projeter.
Des alternatives.
Il faut projeter. Parce qu'il y a des alternatives. L'université et le monde académique ont renoncé et se sont repliés au cours des 30 dernières années en voyant le monde s'écrouler. Et ça ne peut pas durer. Nous avons, parce que j'ai contribué aussi à cela, nous avons une responsabilité historique par rapport à la situation. Dans ce bouquin dont je parlais tout à l'heure, je propose ce que j'appelle une internation des universités du monde entier. Aujourd'hui, les universités doivent s'associer pour constituer un nouveau pouvoir de pensée. La première université de l'histoire de l'Occident, l'université de Bologne, apparue en 1088, a conquis en 1156, si je me souviens bien, une autonomie absolue par rapport au pouvoir aussi bien féodaux que papal. Et je pense qu'aujourd'hui, les universités du monde entier sont en position de revendiquer cette autonomie absolue et d'imposer leur position, d'imposer dans une négociation, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, l'économie dépend absolument de la recherche scientifique, de la recherche académique. Et donc, si les académies arrêtaient, si les universités arrêtaient de fournir le système économique en alternative, en développement, eh bien, l'économie ne fonctionnerait plus. Donc, le monde académique a des capacités de négociation avec le monde économique tout à fait considérables. Il est très important qu'aujourd'hui, ce monde se rassemble, et le réseau Internet permet cela aujourd'hui, et se rassemble non pas pour résister, mais pour inventer des choses nouvelles. Et ça, c'est ce qu'attend le monde aujourd'hui.
Merci Bernard Stiegler. Donc vous trouverez sur le site Internet de Hors-Champ toute la bibliographie de Bernard Stiegler. Et en janvier, vous pourrez découvrir son nouvel ouvrage. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Clotilde Thomas, Didier Lagarde, Brigitte Bouvier, Anne-Vanessa Prévost, Catherine Parent. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.